Bah c'est parti.
Le Sonolab.
Le Sonolab.
Sonolab.
Le laboratoire sonore de Jet.
Des ateliers sur mesure pour questionner, comprendre, écouter et pratiquer avec le son.
Sonolab.
Bonjour et bienvenue dans l'émission du Sonolab sur Jet FM 91.2. Cette semaine, nous écoutons les productions sonores réalisées par les élèves de première, option cinéma, du lycée Guistot à Nantes. L'équipe de Jet a animé une masterclass avec eux autour de la question de l'interview. Les élèves ont réalisé des interviews de A à Z autour de la thématique cinéma et politique. Au programme de cette masterclass, une séance d'écoute et de décryptage d'interviews animée par moi-même et mon collègue Henri, et puis des conseils méthodologiques. Ensuite, les élèves sont partis sur le terrain, ils ont pris contact avec des professionnels du monde de l'audiovisuel, et puis ils ont réalisé leur interview. On s'est retrouvés ensuite au lycée, où j'ai animé une séance d'écoute des rushs et d'initiation au montage. Les élèves ont ensuite réalisé leur montage en autonomie. On s'est encore une fois revus au lycée pour une séance d'écoute critique de leur ours, donc de leur pré-montage. J'étais cette fois-là accompagnée par Eliam, qui est en mission de service civique au Sonolab et qui a fait des remarques très très pertinentes pour faire avancer les montages des élèves. Et puis les élèves ensuite ont finalisé leur montage en autonomie et sont venus visiter les locaux de Jet. Là, nous avons réalisé une écoute de leur projet finalisé. Et puis on a un petit peu joué à l'arroseur arrosé, puisqu'Eliam a réalisé des interviews des élèves pour leur poser un petit peu des questions sur leur rapport au cinéma et sur la question de cette question-là et aussi sur cette thématique de l'engagement dans le cinéma. Quel était leur rapport à ça? Je félicite les élèves pour leur implication dans la masterclass et les projets réalisés. Et puis, je remercie Florine Renard et Franck Rabu pour leur confiance puisqu'on renouvelle régulièrement des masterclass thématiques avec leur option cinéma. Aujourd'hui, nous allons écouter Engagement portuaire, une interview réalisée par Arthur, Elliot, Ruben et Nathan. Ils ont été rencontrés le réalisateur nantais Marc Picavez, qui nous fait voyager autour du cinéma engagé, qui est loin d'être un océan pacifique. Il témoigne dans cette interview de son intérêt accru par les lieux marqués par le temps et qui permettent de faire ressortir des histoires singulières. Dans cette interview, vous verrez que le personnage principal est un porc. On écoute et on se retrouve après.
Donc je m'appelle Marc Picavez, j'ai plutôt tendance à dire que je suis cinéaste, parce que c'est plus large que réalisateur ou documentariste, sachant que je fais à la fois de la fiction, du cinéma documentaire, parfois des installations ou des films un peu plus libres dans leur forme, et j'écris aussi beaucoup, donc je dirais auteur et cinéaste. Moi je viens d'un cursus de sciences sociales. Donc déjà, ça m'a quand même amené à m'intéresser à des sujets d'ordre social. Après, c'est une histoire de rencontre. Par exemple, à Saint-Nazaire, j'ai effectué une résidence et ensuite j'ai mené tout un travail plutôt documentaire ce coup-ci autour des marins, des jeunes marins de marine marchande. De nationalités mêlées à bord des cargos. Ça a donné lieu à plusieurs travaux consécutifs que j'ai faits. Et là encore, c'était autour de questions sociales, quoi. C'est comment on arrive à vivre ensemble sur un tas de ferrailles pendant un an lorsqu'on n'est qu'une vingtaine et qu'il y a 10 religions différentes à bord, par exemple. Lorsque j'avais fait cette première résidence à Saint-Nazaire, où du coup, je me suis quand même plutôt tourné vers le port, sachant que y a des ouvriers qui viennent... Il y a des marins indiens ou des marins philippins, des ouvriers d'Europe de l'Est. Enfin, il y avait beaucoup de croisements à faire. Les lieux dont l'usage comme ça est très fort, ça m'intéresse. Quelque chose qui me plaît déjà esthétiquement. En plus, c'est quand même des lieux, si on prend les zones industrielles, les ports, les espaces un peu abandonnés, logistique aussi, ça m'intéresse aussi en ce moment pour un autre film. C'est des endroits qui sont à la charnière de plusieurs choses. D'un côté, ce sont des lieux de travail, pas toujours des lieux de vie, mais néanmoins des lieux de travail pour le quotidien de certaines personnes. Donc il y a quelque chose de la relation interpersonnelle qu'on peut y capter. Et en même temps, c'est des lieux qui font tourner des espaces plus grands. Si on prend le cas des ports, par exemple, j'avais rencontré deux femmes qui étaient... Qui tenait un Siemens Club, donc un foyer d'accueil des marins, mais qui venait de brûler. Donc c'était un tas de cendres. Elles avaient un vieux fourgon Peugeot et elles tricotaient. C'était l'hiver. Et en fait, leur activité, c'était d'aller sur les bateaux chercher les marins qui voulaient faire sortir du navire le temps de leur escale et les emmener au supermarché. Elles les emmenaient au supermarché Auchan. Et après, je me suis dit, mais non, en fait, eux, ils transportent des marchandises. Ils arrivent dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Ils ne parlent pas la langue. Ils n'ont pas la bonne monnaie, même en poche. Et en fait, les seuls lieux de divertissement, entre guillemets, qu'ils peuvent retrouver partout, dans toutes les grandes villes industrielles où ils s'arrêtent, toutes les villes où il y a des ports, c'est ces malls, ces centres commerciaux, et puis ils font plein de marchandises pour ramener sur le bateau, quoi. Donc en fait, ça faisait sens pour eux. Et en même temps, ça faisait écho à leur activité que de transporter, justement, d'alimenter ces lieux-là, quoi. Donc après, j'y repensais, puis ça a fait naître comme ça une idée. Mais c'est évidemment pas instantané. Donc après, comment les raconter, ça évolue beaucoup en cours de route. Hein. D'un film sur ce Siemens Club qui avait brûlé, c'est devenu un film sur ces jeunes marins qui cherchent des Siemens Club pour se reconnecter à leur famille le temps de leurs escales. Donc ça a beaucoup changé en cours d'écriture. Et là après, c'est un processus d'écriture, de rencontre, de résidence, travailler avec un producteur, une productrice en l'occurrence. Parce que pour que le projet puisse avancer dans sa fabrication, pour pouvoir ensuite aller chercher des coéquipiers, c'est quand même pratique d'avoir un producteur parce que c'est lui qui peut capter les financements, organiser, couvrir le tournage en termes de salaire, d'assurance, de moyens logistiques. Enfin, voilà. Petit à petit, l'équipe se crée. Donc après, pour les rencontrer, soit c'est en regardant le projet qu'on a à tourner, on va chercher les gens qui sont le plus à même qui sont les bonnes personnes pour les mener à bien. Des fois, c'est des habitudes de travail avec des gens aussi. Moi, j'aime bien quand même travailler avec des gens que je connais. Donc, et en même temps, c'est bien aussi de pas non plus rester trop en confiance et de changer aussi d'équipe.
Donc pour finir, est-ce que tu aurais peut-être un mot à faire passer ou des conseils, par exemple, pour des futurs réalisateurs ou alors des gens qui voudraient peut-être se lancer donc, dans le cinéma engagé?
Moi, le conseil qu'on m'avait donné quand j'ai commencé, c'était de former une équipe, justement. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Parce qu'au départ, si t'es tout seul, tu peux pas faire un film tout seul. Et puis tourner, tout simplement, aussi, je pense. Moi, c'est peut-être... Enfin, je les donne aussi pour moi, en même temps, ces conseils, parce que je pense que c'est important à la fois de renouveler des équipes, de reformer des équipes, de garder cet élan, et puis aussi de pratiquer. Parce que des fois, les écritures sont longues, les temps de financement sont incertains. Du coup, le cinéma s'éloigne. Mais le fait de garder le geste de tourner, d'avoir une petite caméra avec laquelle on est à l'aise et qu'on aime utiliser, tenter des choses, ça, je trouve ça important.
C'était Engagement portuaire, une belle interview réalisée par Arthur, Elliot, Ruben et Nathan. Ils l'ont réalisée dans le cadre des masterclass que nous avons animées avec la classe de première option cinéma du lycée Guistot à Nantes. Et tout de suite, les arroseurs arrosés, écoutons un medley d'interviews réalisé par Eliam en mission de service civique au Sonolab qui a reçu les élèves dans les studios et leur a posé des questions sur leur rapport au cinéma et leur engagement dans le cinéma.
Eh bien, je m'appelle Arthur Paya et j'ai actuellement 16 ans.
Je m'appelle Elliot Mesrewet et j'ai 16 ans.
Je m'appelle Nathan Blum et j'ai 15 ans.
Moi, c'est Ruben et j'ai 16 ans.
Je vous demandais de raconter votre premier souvenir de cinéma.
Moi, ma première expérience dans le cinéma, je devais être tout petit et ça devait être chez moi. Je pense que c'était un film que mon père avait téléchargé illégalement. Et ça devait être un dessin animé, je crois que ça s'appelait Igor, un truc dans le genre, et c'était un truc sur Halloween, et ça, c'était traumatisant, vraiment. Je me souviens de la réplique, c'était Igor, baisse la manette.
Moi, je me souviens de, je pense, le premier film que j'ai vu en entier, c'était E.T. Et ça m'a beaucoup marqué parce que j'étais touché par E.T. Enfin, je voulais le sauver, je voulais lui faire des câlins, et voilà.
Alors moi, le premier souvenir, c'est pas forcément un film, mais je me souviens que j'avais participé à un casting et depuis ce jour-là, je sais pas, ça m'a marqué. Et du coup, je me suis commencé à m'intéresser au cinéma.
Moi, c'était mes parents qui me forçaient vers 6 ans à regarder plusieurs extraits de films d'horreur pour m'introduire au cinéma. Et ça m'avait tellement traumatisé qu'après les films d'horreur, ça s'est mis à me passionner. Et c'est pour ça que j'adore le cinéma.
Est-ce que vous pourriez me trouver un film qui vous définit ?
Moi, personnellement, c'est un film qui m'a marqué bien plus tard, après que j'ai découvert le cinéma. C'est plus qu'un film qui me définirait. Je dirais que c'est un film qui regroupe tous les aspects du cinéma que j'aime beaucoup. C'est Do the Right Thing de Spike Lee, qui est un film que j'avais vu du coup au cinéma, exceptionnellement au cinéma Jacques Tati à Saint-Nazaire. Et c'est un film qui, dans ses thématiques, la façon dont Spike Lee filme, tout le fait que ce soit un huis clos aussi, entre guillemets, dans un quartier, c'est qu'il était quelque chose qui m'avait beaucoup passionné et que j'essaie de recréer aussi en filmant maintenant, quand je peux.
Enfin, c'est bizarre, ça ne me définit pas vraiment, mais c'est les vedettes du Palma Show. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais parce que les premiers souvenirs de sorte de court-métrage un peu humoristique comme ça que j'ai vu, c'était eux sur YouTube du coup. Et le fait qu'ils aient sorti du coup plusieurs films, dont celui-là qui est leur dernier, je trouve ça beau et ça mélange un peu humour et vrai film. Et du coup, je trouve ça intéressant.
Moi, ce serait plutôt le film Amadeus. Je ne sais plus le réalisateur, par contre. C'est un film qui retrace du coup le parcours de Mozart. Et c'est un film qui m'a énormément touché, de part parce que j'adore sa musique. Et je ne sais pas comment expliquer ça, mais tout au long du film, j'ai ressenti une émotion extrêmement forte. J'étais en bouffée de chaleur et après je me souviens que je n'ai pas dormi de la nuit. Toute sa musique en fait tournait autour de moi et ça a duré quelques jours. Pendant quelques jours vraiment c'était... Et du coup ça m'a beaucoup touché. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'aime beaucoup la musique et ça me représente bien, oui.
Alors moi, c'est pas vraiment le film qui me représente, je dirais, mais c'est un film qui m'a marqué. Je dirais que c'est le premier Spider-Man, parce que pareil, je devais être petit et je me souviens que pendant une semaine, j'ai vraiment cru que je pouvais tirer des toiles. J'étais un peu naïf, mais j'étais là en mode ouais, je peux entendre les voitures à 10 km. J'ai vraiment cru, tu vois. J'étais passionné un peu par les super-héros et tout. C'était la première fois que je voyais un film de super-héros aussi, donc Spider-Man, c'était mon premier. Et je me souviens que vraiment ça m'avait marqué. J'étais peut-être un peu trop petit, mais du coup j'ai cru peut-être me faire mordre par une araignée pour avoir des super pouvoirs, quoi.
Pour vous, l'engagement dans le cinéma, c'est quoi ?
Moi, du coup, j'ai parlé de Spike Lee plutôt.
Ouais.
C'est un réalisateur qui est quand même sacrément engagé, enfin surtout dans ses premiers films. Je sais plus trop ce qu'il a fait ensuite, mais je sais que Do the Right Thing, ça m'avait beaucoup marqué pour ça. Je pense que c'est très important dans le cinéma, surtout si on commence, on débute et qu'on veut s'affirmer, d'avoir des idées et de les entretenir au fur et à mesure, de les développer dans ses films. Et oui, de la faire passer à un plus grand nombre, pas forcément pour essayer d'apprendre quelque chose, mais donner aux gens la possibilité de réfléchir sur eux-mêmes, sur leurs pensées et sur les actions de tous les jours.
C'est plutôt un cinéma, une localisation de cinéma que je trouve très intéressante dans l'engagement politique, c'est le cinéma coréen aujourd'hui. C'est notamment, on peut le voir avec les films de Bong Joon-ho, Parasite ou Snowpiercer, qui restent quand même des critiques de la société des classes, mais aussi avec des séries un peu plus connues, comme le succès qui a été Squid Game, qui même si au-delà de son aspect macabre, veut vraiment parler d'un problème de la société sud-coréenne qui est vraiment très très sauvage pour de vrai. Et donc, c'est, je trouve ça vraiment intéressant de voir l'engagement du cinéma coréen, notamment justement dans la lutte des classes. En fait, le problème dans Squid Game, c'est que la série est vraiment violente. C'est une violence qui, c'est une violence qui certes est pas, ne passe pas par le gore, mais qui moi m'a quand même un peu marqué. Et après, on apprend justement que c'est juste pour que les grands riches s'amusent, parce que c'est juste pour que des multimilliardaires européens s'amusent sur la mort d'Asiatiques. Et même un épisode qui a montré ça, c'est l'épisode 2 de Squid Game, où justement ils retournent dans la vraie vie, et on se rend compte qu'ils sont mieux dans le jeu, qui est pourtant mortel, où ils ont des chances de mourir, que dans la vraie vie, qui les a totalement dégagés de la société sud-coréenne, juste parce qu'ils sont endettés.
Et je pense qu'aussi le problème de cette série, c'est que en fait, cette violence, elle a été vraiment mal interprétée, et que du coup, derrière ça, il y a énormément de gens qui l'ont glorifiée, et qu'en ont justement fait tout un jeu qui a été même reproduit dans la vie réelle. Et je pense qu'en fait, cette série, elle avait un potentiel, mais elle a vraiment été mal interprétée et glorifiée pour les mauvaises raisons, en fait.
Alors moi, je dirais un film assez récent, donc Sans Filtre, qui est, il me semble, Palme d'Or cette année au Festival de Cannes. Mais ouais. Là encore, je trouve qu'on se rapproche un petit peu de Squid Game, enfin dans le sens où c'est... Là encore, peut-être la dénonciation est quand même un peu mise de côté. Enfin, ça reste un peu superficiel. Je sais pas. On est peut-être plus axé plus sur l'histoire une histoire que la réalisatrice veut raconter que ce qu'elle veut vraiment dénoncer. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est pas si engagé que ce qu'on pourrait penser.
C'était une production issue du laboratoire sonore de Jet. Retrouvez tous les podcasts de nos projets au www.sonolab.fr.